Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ça, c'est les passages obligés des clients qui fréquentent le quartier. Les clients, ben, c'est comme partout, c'est monsieur tout le monde. Hein, donc il y a une étude à Bruxelles qui montrait qu'un homme sur 10 avait recours à un plaisir sexuel tarifé. Donc c'est des hommes mariés, célibataires, pères de famille, de tous âges. Voilà. Et vous voyez aussi que le quartier est fréquenté par beaucoup de jeunes, parce que c'est les jeunes habitent le quartier. Donc,
on est du quartier, mais voilà. On n'apprécie pas cela, ces vitrines. C'est pas bien cette rue. Regardez, nous, on habite en haut. Si on habite dans cette rue en haut, chaque fois, il y a un type qui rentre ici dans l'appartement. Ça fait chier, ça. Les femmes, ils font la musique à faux. Les prostituées font la musique à faux. Ils veulent pas nous laisser rentrer.
Moi, je suis dégoûtée de la prostitution parce que regardez, il y a des personnes âgées, des bons religieux, tout ça. Ils sont là, on part. Et même nous, des jeunes adolescents, on y va pour aller à l'école et c'est à côté de notre rue. On tourne pour prendre le tram et ben on voit ces prostituées, ça me dégoûte. Et de deux, il y a des prostituées qui nous font viens. Et nous, on est tout petits. Et de trois, il y a les policiers, nous, on y va pour aller à l'école, ils nous font carte d'identité. Nous, on y va à l'école. Et ils nous sont embarqués à la maison. Et les prostituées, ils habitent au-dessus de nous et nous on a marre, nous on habite au-dessus d'eux et tout ça. Et on a marre, ils sonnent, tout ça, et des putes, je crois qu'il y a des hommes qui rentrent et tout ça. Et ma mère la pauvre, elle descend, regarde ça, c'est pas bien. C'est...
C'est une histoire qui se passe à Bruxelles, dans ce fameux quartier avec des vitrines où sont exposées sous des néons des travailleuses du sexe, ce qu'on appelle un carré. C'est une histoire que nous avons diffusée pour la première fois il y a quelques années, enfin un bon bout de temps, vers 2003. À cette époque, en France, venait d'être votée une loi de sécurité intérieure pénalisant de prétendues nouvelles formes de délinquance, comme la mendicité agressive, les rassemblements menaçants ou hostiles dans les parties communes des immeubles et le racolage passif. En France, les prostituées avaient donc commencé à se cacher dans des camions, des appartements, sur Internet, ou bien elles prenaient le risque d'être arrêtées. C'est pourquoi nous étions allés voir de l'autre côté de la frontière comment étaient traitées les filles qui travaillent dans les vitrines. Une dizaine d'années plus tard, une nouvelle loi en France vient d'être adoptée qui prévoit de pénaliser désormais les clients de prostituées. L'achat d'actes sexuels sera sanctionné par une amende de 1500 euros maximum. En cas de récidive, elle pourra s'élever à 3750 euros. Il y a aussi une peine complémentaire sous la forme d'un stage de sensibilisation aux conditions de la prostitution. Par contre, le délit de racolage passif est supprimé et un accompagnement pour les femmes qui souhaitent arrêter d'exercer ce métier est prévu. C'est à la lumière de ces nouvelles dispositions que je vous propose donc de réécouter aujourd'hui l'histoire de Sonia et d'Ingrid, qui n'est certainement pas emblématique de la condition des personnes prostituées. Elles sont peut-être des exceptions, des cas, mais elles méritent tout de même d'être entendues. En tout cas, jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un reportage de Leïla Djitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Ici, on est au quartier qui jouxte la gare du Nord, dans le quartier réservé aux femmes qui se prostituent dans les vitrines. Et pas un quartier où il y a de la prostitution de rue. C'est de la prostitution de vitrine qu'on appelle à Bruxelles carré. Et donc, c'est pas un lieu de consommation, c'est pas un bar. Les personnes vivent dans un rez-de-chaussée et c'est leur lieu de travail parce qu'elles ont également un domicile privé et elles l'aménagent. Donc, c'est considéré par la loi comme un domicile privé, une seconde résidence, voilà.
Alors, ce sont ces femmes que l'on voit derrière des vitrines, comme à Amsterdam, en fait.
Oui, c'est comme à Amsterdam. Donc, la prostitution s'organise de manière discrète. Et je vais dire en bon père de famille, vous voyez, c'est pas du tout un quartier comme on peut imaginer à Paris, où les femmes travaillent dans l'insécurité, dans les quartiers glauques. C'est un quartier populaire, donc c'est un quartier où il y a une forte immigration turque et marocaine, où parfois c'est pas simple, parce que les habitants n'ont pas toujours envie de voir défiler, vous voyez, le balai incessant des clients en voiture. Mais en même temps, c'est pas un quartier difficile, à la mesure où il y a des discussions avec le comité de quartier, qui permet une certaine convivialité. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas d'indécence dans le quartier, donc c'est assez pudique. Mmh. Et ça permet le respect des familles qui vivent dans le quartier.
Voilà. Une prostitution propre, c'est ça que vous voulez dire?
Pas propre, mais réglementée. Et d'accord. C'est surtout ça, c'est un peu pour répondre à ce que Sarkozy disait chez vous, quand il disait il n'est pas normal que des femmes pratiquent des fellations en bas des immeubles. Ben non, c'est pas normal, mais c'est pas la bonne façon de résoudre la question. Et donc ici, il y a une bonne communication, et donc les femmes qui travaillent de manière trop indécente, les femmes entre elles imposent un code, une déontologie de travail qui fait qu'on peut travailler dans le respect de différentes communautés qui habitent et qui partagent ce quartier. On est chez Ingrid, qui travaille dans le quartier depuis très longtemps et qui va se présenter. On va peut-être pas laisser la porte ouverte. Parce
voilà. Elle est derrière sa petite vitrine.
Elle est derrière sa vitrine avec ses néons, donc qui signifie qu'elle travaille.
Bonjour.
C'est Cindy. Et bien, à son copain, t'as fait la vieille.
les petits, là?
Oui, les petits gamins, ouais, mais ce sont des gosses, ils ont 12-13 ans. Hein.
Mais ils vous agressent pas, en fait.
Non, ça va. C'est assez calme.
Ils se plaignent que vous leur faites des signes.
Ah non, justement. On les ignore et ça leur plaît pas, quoi. Hein. Je crois que c'est plutôt le contraire, c'est parce qu'on les ignore. Hein.
Vous êtes bien là?
Oui, si, c'est chouette, c'est sympa. C'est un beau quartier, j'aime bien.
Vous savez que pour nous, Français, c'est étonnant de voir un quartier de prostitution comme celui-ci qui est organisé, en fait, finalement.
Oui. Hein. Mais en fait, ce quartier, donc, on loue un rez-de-chaussée. Et alors, on paie un loyer mensuel et on travaille une fille seule par rez-de-chaussée, quoi. Je suis assise donc derrière un carreau où il y a un néon rose et un néon bleu, donc qui veut dire que je suis une prostituée, pour ne pas que les autres gens soient embêtés. Donc je suis assise dans un fauteuil manuel. Alors j'ai une TV pour quand c'est un peu plus calme, que c'est creux. Donc ici, il y a un petit salon. Et alors ici, vous avez la pièce où ça se passe, quoi. Donc j'ai un lit, un évier, un bidet pour l'hygiène, et une chaîne stéréo pour avoir un peu de musique, et un éclairage très...
Très intime.
Oui, très intime.
Donc c'est une jolie petite chambre.
Oui, une carré. Oui.
Une carré, oui. Avec un dessus de lit léopard.
Léopard, oui, tout pour mettre dans l'ambiance.
Oui, c'est comme une petite maison.
Oui. Voilà, et on est des indépendantes, et on a notre lit, on a un bidet, on a tout ce qu'il faut, chauffage, et la sécurité.
Et la sécurité, c'est important.
Ah oui, c'est hyper important, parce que travailler en rue, on n'a quand même pas de sécurité en rue. Hein. Je vais fermer ça 2 minutes. Voilà, oui, les gens regardent, quoi, ils se demandent ce qui se passe. Et voilà, on est payés au mois, on est des femmes indépendantes.
Comment ça, vous êtes payés au mois?
Non, on paye le loyer au mois. Oui, non, nous autres pas, hein, mais on paye le loyer au mois. D'accord. C'est mensuel.
Est-ce que c'est indiscret de vous demander combien vous louez votre petite carré? Qui n'est pas petite, d'ailleurs, ça fait quoi? 45 mètres carrés?
386 euros.
386
francs. Oui, 2400 francs français.
Oui. Ce qui est tout à fait correct.
Ce qui est tout à fait correct. Mais par contre, il y a des filles ici qui payent aussi 100 000 francs par mois. Donc 2500 euros, oui. Donc ça fait beaucoup. Les filles qui payent très cher sont en général des filles qui sont étrangères, quoi. Elles n'ont pas de papier et tout ça. Et les propriétaires profitent.
Je vous fais perdre des clients.
Non, c'est pas grave, ils reviendront.
Ils reviendront.
Oui, ils reviendront.
Je suppose, Ingrid, que vous avez suivi un peu tout ce qui se passe en France autour de la prostitution.
Oui.
Alors déjà, quelle est la différence entre votre statut à vous de prostituée belge par rapport aux Françaises?
Par exemple, ici, les femmes qui souhaitent peuvent donc adopter le statut d'indépendant. Ça veut dire qu'elles payent des cotisations en fonction de ce qu'elles ont gagné. Mm-hmm. Elles sont soumises, par exemple, à la TVA. Mais en même temps, il y a une série de frais qui ne sont pas reconnus. Hein. Donc, elles n'ont pas non plus sur la déclaration fiscale le mot prostituée. On invente masseuse, experte. Enfin, il y a une série d'hypocrisies. Mm-hmm. Il y a d'autres femmes qui ont un statut de salariée. Ça, c'est celles qui travaillent en bar. Mais ça, c'est aussi un faux statut. C'est aussi beaucoup d'hypocrisie. Mais officiellement, celles qui travaillent en bar, elles ont un contrat de travail, comme dans n'importe quel café ou restaurant, d'accord, en tant que serveuse. Mais c'est une grosse hypocrisie, parce que si en même temps elles ont un contrat de travail et donc accès au chômage, à une série d'acquis sociaux, en réalité, elles ne touchent pas de salaire, et c'est elles qui payent leur place dans le bar. Et celles qui sont en rue n'ont pas de statut.
Les communes nous taxent, tout le monde essaye de prendre un maximum d'argent, mais personne ne nous reconnaît.
bon, ça permet aussi de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, c'est que la prostitution est légale, mais tout ce qui permet de se prostituer est illégal. Donc, l'incitation à la débauche, la publicité, le racolage, c'est illégal. Et on ne fait pas distinction en Belgique entre le racolage passif ou actif. Le racolage est illégal.
Les écolos maintenant veulent punir, pénaliser les clients qui vont chez les filles de réseau. Comment est-ce qu'un client peut deviner au visage de la fille qu'elle fait partie d'un réseau ? C'est impensable. De toute façon, c'est encore mettre de nouveau les filles dans la clandestinité. Les libéraux veulent nous mettre comme indépendants et les socialistes donc, sont partagés en deux. Les féministes veulent pénaliser le client et les autres socialistes veulent nous donner un statut. Mais là, c'est encore en pourparler. Donc tout le monde se mélange et tout le monde, personne n'est d'accord avec rien.
Donc il y a aussi un vrai débat ici.
Il y a un vrai débat, mais on n'est pas toujours, on ne demande pas toujours notre avis. Hein. Mm-hmm. Parce qu'on dit que notre avis n'est pas le bon, parce que nous sommes dans le milieu et que, à la limite, que nous ne sommes pas capables de penser. Quoi, hein. Nous sommes des pauvres filles qui sont incapables de penser. Hein. Alors notre avis n'est pas vraiment intéressant, hein, Sonia.
Je suis Sonia, donc je travaille ici en Belgique dans une carré. Je vous avais peut-être déjà expliqué ce que c'était. J'ai 50 ans, j'ai 30 ans de métier. Je fais la prostitution tout à fait librement. C'est-à-dire que librement, ça sous-entend que non seulement je n'ai personne qui me met une fusil ou un couteau pour m'obliger à travailler, mais librement, ça veut aussi dire que je suis absolument libre de prendre qui je veux comme client et de refuser les pratiques que je n'ai pas envie.
Comment vous avez acquis l'une et l'autre cette liberté, cette indépendance ?
Je n'ai pas acquis, je l'avais depuis le début. Je suis rentrée dans le métier tout à fait par hasard à une époque où je travaillais dans un bar. À cette époque-là, c'est vrai qu'on ne faisait pas l'amour, donc en fait c'était des caresses abouties, disons. Et on buvait du champagne et ça s'est fait doucement avec l'évolution. Et puis j'ai commencé à faire l'amour j'ai toujours été libre. J'ai souvent arrêté le métier parce qu'il y a des moments où je sentais que mon corps ou ma vie privée à ce moment-là ne me permettait plus où j'avais, voilà, j'ai arrêté comme on peut arrêter tous les métiers et j'ai recommencé parce que vraiment... je crois que le destin de quelqu'un, c'est aussi de savoir pourquoi on est fait. Et moi, je crois que définitivement, j'ai essayé beaucoup de métiers, des métiers que j'aimais, et que définitivement, c'est le métier que j'aime, c'est le métier dans lequel je suis la meilleure.
Quel genre de métier vous avez essayé qui ne vous ont pas convenu finalement?
Mais j'étais secrétaire dans des grandes firmes à Air France, donc vous voyez, j'ai eu des magasins, j'ai tenu une agence de groupe de rock, j'ai travaillé très longtemps dans l'Oreca comme serveuse dans des restaurants, oui, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, c'est un peu trop pour m'en souvenir, mais chaque fois je suis revenue malgré le poids de la société qui me disait toujours que ce que je faisais n'était pas bien. Et que j'étais quelqu'un d'immoral, que je devais absolument être quelqu'un de vicieux, immoral, largué, victime pour faire ça. Et il faut être très fort pour résister à ça, surtout quand on n'est pas convaincu du tout de ce que les gens disent. Donc en fait, quand j'ai eu 40 ans, donc une dizaine d'années, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment quelqu'un de complètement immoral, complètement... dégueulasse et que je fais ce métier et que je ne sais pas ce que je fais, je me rends pas compte. Donc j'ai fait une thérapie que je fais encore d'ailleurs. Et en fait, pas de chance pour les féministes, mais non seulement je me suis aperçue que ce métier était bien, mais je sais que c'est bon pour moi. Je me suis posé la question. J'ai découpé un article aujourd'hui. Mmh. Génial. Parce qu'on dit toujours que les prostituées ont subi des sévices sexuels dans l'enfance. Je viens de lire dans le Libération qu'aux États-Unis, une religieuse sur deux a subi des actes sexuels dans l'enfance. Donc, maintenant, les nonnes et les putes, même combat. Main dans la main. Les nonnes, vous pouvez être putes. Vous pouvez être nonne, même que vous avez été... Mais enfin, je veux dire, c'est quand même complètement débile, je veux dire. Même si on a eu des abus sexuels. Enfin, moi, j'ai eu des attouchements sexuels quand j'étais enfant. C'est vrai. Ce que ça a fait chez moi, je le sais, je l'ai analysé. 10 ans de thérapie, ça va. Ce que ça a créé chez moi, c'est que ça m'a empêché pendant tout un temps de ma vie de recevoir de l'affection. D'accord ? Mais ça m'a donné une autre force. C'est que ça m'a donné envie de donner. Parce que tout ce que je ne pouvais plus recevoir, je le donnais.
France Culture, les pieds sur terre.
L'impression de donner quelque chose à tous ces hommes qui viennent vous voir.
Ah oui. Même et je reçois en échange, évidemment, parce que leur gratitude, c'est quelque chose de fabuleux. Les hommes me disent merci quand ils sortent. Ils me disent bonjour. Il y en a qui me disent madame. Il y en a qui me disent merci. C'est bon quand même. Je dis toujours que c'est un métier qui est comme le métier de psy, mais il y a le sperme en plus. Comme chez les psys, ils viennent décharger leur fureur, leur douleur, le désespoir, ils viennent tous leurs angoisses, ils viennent chez nous pour les mêmes raisons qu'on va chez un psy, mais chez nous, il y a le sperme. Et c'est très paradoxal, mais c'est peut-être difficile à comprendre pour quelqu'un qui connaît pas bien le métier, mais ce petit moment, c'est loin d'être le plus important pour un client. Les hommes viennent ici, ils croient que c'est pour jouir. Mais en fait, c'est simplement pour avoir une relation avec quelqu'un, même si c'est une relation qui dure 5 minutes. Et l'autre jour, j'ai eu un client avec qui je discutais de tout ça. Il m'a dit une très belle phrase. Il m'a dit, c'est vrai ce que tu dis, il me dit, parce que même quand je vais dans le plus sordide des bordels, c'est toujours l'amour que je vais chercher. Et il y a des hommes qui ont été avec des femmes qui les ont castrées, parce que bon, tous les hommes ne sont pas des porcs, mais toutes les femmes ne sont pas des saintes, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui, tu ne sors pas la poubelle ce soir, on ne baisse pas. Tu travailles trop, on ne baisse plus. Donc le chantage au sexe, on connaît. Donc ces pauvres hommes, ils font ce qu'ils peuvent, on veut pas, ils viennent parce que justement il n'y a pas que dans le sexe dont ils ont besoin. Ils ont besoin, le nombre de clients quand ils rentrent, ils vous étreignent comme ça, mais comme un ami ou un parent peut faire. Ils nous étreignent, ils nous disent quand ils font l'amour, ils nous disent je t'aime, ils nous disent plein de choses. On sait que c'est pas, ils viennent pas que vider leur bourse.
Et puis, Pascal, tu te souviens quand on avait été au libre examen, là, les deux féministes qui nous avaient dit qu'il y avait les gens qui étaient beaux et qui étaient riches qui avaient le droit à avoir une vie sexuelle.
Non, ils disaient que c'est des féministes, de nouveau, qui m'ont carrément dit, parce que je disais, oui, mais enfin, bon, il y a des gens, il y a des handicapés, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens très laids, il y a des gens timides, il y a des gens qui ne savent plus comment faire avec le corps d'une femme. Je dis, ces gens, où ils doivent faire? Et elles m'ont répondu que le plaisir n'est pas un droit. J'ai très difficile à comprendre des arguments pareils, parce que le plaisir est un droit, il est un droit s'il est fait avec une personne, je reviens à nouveau à la notion de consentement.
Vous venez de parler de quelque chose justement, comment vous vous accommodez l'une et l'autre justement de la laideur parfois?
Je la vois pas, je la vois pas.
C'est pas vrai Sonia.
Je vous jure que je la vois pas. Je vous donne ma parole que je ne vois pas que les hommes sont laids.
Non. C'est pas ça qu'on
veut. C'est un métier d'humanité, hein.
C'est pas ça qu'on voit chez nous.
On n'a pas le temps de voir s'ils sont beaux ou laids.
Maintenant, on doit prendre que les beaux et les riches.
En général, en plus, non seulement on ne le voit pas, mais en général, un homme qui n'est pas beau est beaucoup plus gentil. Parce qu'il est obligé, enfin, il se sent obligé de compenser, de se faire aimer aussi. Parce qu'ils veulent être reconnus. Et un des autres arguments, les hommes sentent mauvais. D'abord, c'est très rare un homme qui sent mauvais. Parce qu'en général, nos clients, ils savent qu'ils viennent ici et ils se respectent assez pour ne pas sentir mauvais. Et même s'il y en a un qui a une journée peut-être un peu éprouvante, moi je réponds toujours aux féministes que madame, quand moi je suis en centre-ville et que j'ai un bus au diesel qui départ devant moi, je trouve que ça sent beaucoup plus mauvais qu'une odeur de transpiration d'un homme qui a passé une journée au bureau. Voilà. Et ça, j'y suis confrontée malgré moi tous les jours quand je suis en centre-ville.
C'est comme les handicapés. Il y a des centres qui nous appellent pour qu'on fasse des handicapés. Moi, j'en ai pris ici. On les amenait, c'était deux infirmiers qui l'amenaient dans la chaise roulante et puis qui le mettaient dans le lit. Pourquoi? Parce qu'il est handicapé. Il n'a pas le droit d'avoir un peu de tendresse, un peu d'affection. Non. Et je ne regardais pas cette personne comme une personne handicapée.
À la limite, j'aime parfois mieux un homme laid qu'un homme beau. Je me souviens que j'avais un client qui était vraiment pile poil ce qui me fait craquer.
C'est-à-dire, dites-nous.
Oh, il était... petit rital sec comme ça. C'était pas du tout un rital, mais j'aime bien les petits bruns, yeux noisettes et très nerveux comme ça. Oui, bon. Mais j'ai tout fait pour qu'ils ne viennent plus. Parce que je sentais que quand ils sortaient, j'étais pas confortable. Je me disais, tiens, j'aimerais bien qu'ils reviennent. S'ils ne reviennent pas, ça va me faire quelque chose. Et j'ai dit non. Parce que j'étais plus neutre. Et je ne savais plus passer ma passe à lui donner, à m'occuper de lui. Je ne m'occupais plus que de moi. Donc, ce n'était plus dans le cadre du contrat.
Comment vous avez fait pour le mettre à distance?
J'étais très mauvaise pute pendant quelques fois. Voilà. Comment on fait pour être une mauvaise pute, vous allez me demander? Ben, on s'arrange pour pas qu'il jouisse, on s'arrange pour être nerveuse, on s'arrange pour tout ça, quoi. On est agressif. Facile, hein? On fait comme souvent des femmes font pour que leur mari ait plus envie de leur faire l'amour. Ouh, c'est très... Ouh, je vais me faire détester, là. Un client passe dans la rue, on le fait rentrer ou pas. Donc là, on n'a que 2-3 secondes pour savoir est-ce qu'il va nous tuer ou pas. Et moi, en 30 ans de pratique, je n'ai été une fois agressée, c'est tout. Et moi, je ne me fie pas à l'allure, je me fie au regard.
Qu'est-ce qui, dans le regard, peut parfois vous dire non, celui-là, il ne va pas rentrer?
On ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas expliquer. C'est l'instinct. C'est l'instinct de survie, je crois, qui nous dit ça.
Quand on commence ce métier, est-ce qu'on est initié par d'autres ou on se débrouille, on bricole?
Quand j'ai commencé dans un style de maison. Et alors, j'avais la vieille patronne. Hein. En fait, à l'époque, c'était moitié-moitié. On donnait la moitié de notre passe à la patronne. Et en fait, c'était une vieille maquerelle absolument extraordinaire. Les premières fois, elle prenait des clients qu'elle connaissait bien. Et alors, il dit, bon, je vais un peu te montrer. Le client servait d'objet. Et alors, elle me montrait où il faut toucher, ce qu'il ne faut pas faire. Elle m'a appris comment les faire jouir. Elle m'a appris comment... Elle m'a appris ce qu'on ne peut pas, parce que dans ce métier, on a des droits aussi par rapport au client, parce que c'est un métier où on croit toujours que le pouvoir est du côté du client. Mais enfin, c'est ce qu'on dit toujours, qu'un homme qui est rentré à l'intérieur ici, qui est avec son pantalon sur les talons et sa capote à la queue, je ne sais pas s'il est vraiment en position de puissance totale, parce que le client, en fait, il rentre, il demande de pouvoir rentrer, on peut dire non. Il demande le prix, on peut dire non. Il demande des pratiques, on peut dire non. On est derrière, il veut nous embrasser, on dit non. Il veut nous sodomiser, on dit non. Il peut être confronté à tout moment à un non. Le tout est pour la prostituée, c'est dès le départ, dès la première seconde, de se positionner en sujet, oui, de dire j'existe.
Mais je reviens sur la mère Maquerel dont vous me parlez. Qu'est-ce qu'elle vous a appris d'essentiel?
Par exemple, les trucs, par exemple, il y a des femmes, on est toujours vigilant quand on a un client qu'on ne connaît pas. Alors moi, par exemple, quand je fais l'amour avec un client, je tiens toujours le sexe à hauteur du préservatif. Que ce soit par l'arrière, par l'avant, je m'arrange toujours. Quand le client me demande pourquoi, j'ai dit c'est pour tenir la capote. Mais juste à côté de la fin du préservatif, il y a les couilles. Donc si le client n'est pas gentil, je serre les couilles. Donc c'est tous des trucs qu'on apprend à être vigilant, à savoir ce qui peut faire mal à l'homme si on est en danger. Enfin, tout quoi, la sexualité de l'homme, son corps, notre corps aussi, ce qui peut être mauvais à se laisser faire à soi.
Vous dites, oui, ça, Ingrid.
Oui, ouais. Oui, tout à fait. Et c'est ça qu'aussi, à un moment donné, il y avait une association qui avait voulu créer une école. Mais c'était, parce que ça a été dit école, ça a été très mal perçu. Mais moi, je sais que quand à 18 ou 19 ans, on entre comme ça en prostitution et qu'on ne connaît rien, c'est hyper dangereux, quoi. Et je trouvais que ces cours, c'était intéressant. Comment mettre un préservatif, comment se protéger, comment ne pas se faire agresser, ou mettre des miroirs dans les carrés. Parce que quand on est prise en levrette, le client est derrière nous. Mettre un miroir devant.
Des cours de droit, des cours de comptabilité,
des cours de santé, enfin tout. Moi, je trouvais ça extraordinaire, mais ça a été hyper médiatisé, ça a été très mal perçu et ça est tombé à l'eau.
Comme les autres, je vais au théâtre, je vais au cinéma, enfin je suis un être humain, hein. Il faut me regarder, enfin vous pouvez en témoigner, j'ai deux yeux, j'ai des dents, je suis normale, je suis une femme, hein. Parce qu'on a toujours une image très caricaturale de la prostituée. Oui, il y a une méconnaissance. Oui, mais il y a la vision que les médias ou que tout le monde donne de la prostituée. C'est vrai que quand on montre une prostituée en général, on la montre hyper vulgaire, à moitié à nu au Bois de Boulogne ou ici à moitié nu en vitrine. On montre rarement des prostituées classiques. Parce que si une prostituée est une femme normale, ça peut déranger. parce que ça voudrait dire que tout le monde peut l'être. Moi, ça m'arrive de dire je suis une pute, quoi. J'ai pas de problème avec ça. Si c'est le nom, il y a travailleuse du sexe, il y a prostituée, il y a péripatéticienne, il y a plein de... Le nom, c'est pas très important, en fait.
Non, pas du tout.
Si ça
non.
leur plaît de m'appeler pute, ils m'appellent pute. Bah, c'est oui. pas... J'ai pas... Moi, j'ai... Quand on est bien dans ses baskets, on n'a pas de problème avec tout ça, je veux dire. C'est... Une fois qu'on a bien intégré le bazar, on s'en sort.
Comprenez-le. Je vis ce que je pense, je vis comme je veux. Je mets Johnny en cage, je n'aime pas Edith Mathieu. Que vous importe mes cheveux, j'ai des chemises que je veux. Je fais tout ça pour moi, pas pour vous. Comprenez-le.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec l'histoire d'Ingrid et de Sonia, une émission diffusée pour la première fois en 2003, qui ne rajeunit pas. Sonia, depuis, sachez-le, a continué à travailler jusqu'en 2011 dans son carré. Il y a 5 ans, elle a pris sa retraite à l'âge de 59 ans, après plus de 36 ans de carrière, dit-elle, dans la prostitution. Elle a décidé de se lancer dans la rédaction d'un master en anthropologie à l'Université libre de Bruxelles. Et son sujet de recherche, c'est le masochisme social et sexuel. Un reportage aujourd'hui de Leïla Djitli, réalisé par Manouchak Fachaï, avec un coup de main de Vincent Abouchard pour la rediff. Merci bien sûr à Sonia, à Ingrid et à Catherine. François, vos commentaires, c'est à nouveau sur la page des Pieds sur Terre et sur le site de France Culture, bien sûr. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, poster, partager, commenter notre émission si vous le souhaitez. Vous pouvez, vous devez également vous abonner à notre podcast. C'est quasiment obligatoire. En tout cas, c'est bien utile.